des vignes de Lorraine. Jésus règne à jamais dans nos cœurs, règne d'amour, de paix, de louange. Jésus règne à jamais dans nos cœurs, règne d'amour, de paix, de louange. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. De louange, c'est de mille qu'il nous sauvera. Jésus, règne à jamais dans nos cœurs. Règne
d'amour, de paix, de louange.
Jésus, règne
à jamais dans nos cœurs.
Règne d'amour, de paix, de louange. Danse, danse de joie,
comme en Israël.
Et danse, danse de joie. Danse, danse de joie.
Danse de joie, ô Seigneur, toute la terre. Saute,
saute de joie. Saute, saute de joie. Saute, saute de joie.
Saute de joie, ô Seigneur, toute la terre.
Tape des mains, tape, tape des mains,
tape des mains, ô Seigneur.
Alléluia pour le roi, crie, crie de joie.
Amen.
Crie de joie. Crie de joie. Crie de joie, ô Seigneur, toute la terre. Et danse, danse de joie. Danse, danse de joie. Danse, danse de joie.
Danse de joie, ô Seigneur, toute la terre.
Saute de joie.
Amen.
Saute, saute de joie.
Comme les bouts dans une étape. Saute. Allez, Hélène. Amen.
Saute de joie, ô Seigneur, toute la terre. Alléluia pour le roi. Alléluia pour le roi. Danse pour lui.
Chasse pour lui.
Alléluia pour le roi. Alléluia pour le
Yeah. notre méditation que nous avons commencée hier après-midi sur les trois secrets de l'apôtre Paul, le secret de la puissance de l'apôtre Paul. Quel était son premier secret? Nous l'avons vu hier après-midi. Quel était ce premier secret? Une conversion radicale. L'apôtre Paul est passé par une conversion réelle et profonde qui a complètement changé sa vie. Et à cause de cela, Dieu pouvait l'utiliser pour changer la vie des autres, n'est-ce pas vrai? Nous ne pouvons pas communiquer la pensée de Dieu, la puissance de Dieu aux autres si nous-mêmes, nous n'avons pas fait une expérience réelle et puissante avec Dieu. Donc une conversion profonde. J'aimerais qu'on voit le deuxième secret de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul avait un esprit missionnaire. Voilà une qualité, un caractère qui était en lui et que Dieu a utilisé pour le bénir et par lui bénir le monde. Amen. Je répète, un esprit missionnaire. Voilà ce qu'avait l'apôtre. Et nous allons voir cet esprit missionnaire dans ce passage. 2 Corinthiens, chapitre 5. Lisons quelques versets, si vous le voulez bien. 2 Corinthiens 5, verset 13. « En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. L'apôtre Paul avait un esprit missionnaire. Et j'aimerais subdiviser mon message en quatre points. J'aimerais vous parler des quatre M de l'esprit missionnaire de l'apôtre. Premièrement, la motivation de l'apôtre. La motivation. Deuxièmement, le message de l'apôtre. Troisièmement, les miracles qui confirment la parole. Et quatrièmement, le monde qui est devant nous et que nous devons évangéliser. Amen. L'apôtre Paul avait ses quatre visions, ses quatre M. Et si vous voulez que Dieu vous utilise, ces quatre M doivent être constamment devant nous. Amen. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, soyez réconcilié avec Dieu. Alléluia. Le premier M de l'esprit missionnaire est la motivation de l'apôtre. Quelles étaient ses motivations? La première motivation est celle-ci. Il dit « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que sans Christ, tous les hommes sont morts dans leur péché. Amen. Tous les hommes sont morts dans leur péché. Tous les hommes sont séparés de Dieu par nature et ne connaissent pas Dieu et ont besoin d'entendre le message du salut. Amen. Voilà une vérité importante. Si nous réalisions cela, alors toute notre léthargie, toutes nos timidités tomberaient. Car nous ne réalisons pas assez que les âmes se perdent. Christ est mort pour tous. Cela veut dire que tous sont morts, morts dans leurs péchés. Mes amis, il y a des multitudes qui nous attendent et qui meurent dans leurs péchés. Voilà pourquoi il y avait un feu dans le cœur de l'apôtre Paul et qui s'écriait jour et nuit, « Malheur à moi si je n'annonce l'Évangile. Malheur à moi !» Il avait une mission. Il avait une charge, il avait une responsabilité. Tous sont morts. C'est pourquoi nous devons aller auprès d'eux. La première motivation est celle-ci. Les âmes se meurent. Amen. Alléluia. Et vous savez, pendant le réveil du Pays de Galles, Evan Roberts, ce fameux revivaliste, a fait cette prière en disant, « Ô Seigneur, voyant la misère qui était autour de lui, Seigneur, pendant une année, ferme les portes de l'enfer. » Et pendant cette année-là, plus de 100 000 âmes sont entrées dans la gloire de Dieu. Alléluia! Gloire au Seigneur! Des multitudes sont en train de crier. Avez-vous entendu les multitudes crier? Avez-vous entendu la souffrance des uns et des autres? Avez-vous entendu l'appel du Macédonien? Viens et secours-nous! Il y a un message, des hommes morts sans Christ. L'apôtre le voyait, le sentait. Mes amis, ça c'est une motivation extraordinaire. Amen! Mais bien souvent, nous pensons, oh, les hommes, s'ils font le bien, ils seront quand même sauvés. Mais qu'est-ce que tu veux? Dieu n'est pas si mauvais que ça. Ils ne sont quand même pas perdus. C'est un mensonge. Voilà pourquoi une telle théologie nous fait mettre des pantoufles aux pieds. Amen. Et nous fait asseoir dans le bon fauteuil en disant, oh, Dieu est bon, de toute façon, eh bien, ça ira bien à la fin. Non, mes amis. La motivation de l'apôtre était celle-ci. Il savait que tous les hommes sans Christ meurent. Et nous avons une responsabilité. Tu as une responsabilité. Amen. Amen. Mes chers amis, nous avons une responsabilité. Nous avons besoin d'aller auprès des autres. Vous savez que bien souvent, c'est les autres aussi qui sont venus jusqu'à nous. Vous savez ce que j'ai lu ici? Dans un magazine. Voilà ce que j'ai lu concernant la mission. Bien souvent, nous ne nous rendons pas compte de cela. Savez-vous que ce fut un juif qui amena l'évangile à Rome? Un italien qui amena l'évangile en France? Un français qui l'amena en Scandinavie? Un écossais qui en évangélisa l'Irlande? Un irlandais qui évangélisa l'Écosse? Aucune nation n'a jamais reçu l'évangile sans l'aide d'un étranger. Amen. Aucune nation n'a jamais reçu l'Évangile sans l'aide d'un étranger. Mes amis, si nous sommes au Seigneur, c'est parce qu'un étranger est venu vers nous. C'est parce qu'un étranger est venu vers nous. Nous ne le réalisons pas assez cela. Nous pensons que nous, on n'a pas besoin des autres. Mais mes amis, si nous avons été sauvés, c'est parce que des étrangers sont venus. Et s'ils sont venus à nous, hein, nous aussi nous devons aller vers eux. Alléluia! Ça, c'est la loi de l'Évangile. Le bien qu'on nous fait, nous devons aussi le faire aux autres. Amen. Mes chers amis, c'est pourquoi nous avons une dette. Et l'apôtre Paul réalisait qu'il avait cette dette-là. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et cela est donné à tout le monde, à tout le monde, tout le monde. Tout le monde peut faire quelque chose. Tous les chrétiens. Vous savez que les premiers chrétiens avaient cet esprit missionnaire. Et voilà pourquoi le Saint-Esprit a été répandu. N'est-ce pas vrai? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoin à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu ne t'a pas oint du Saint-Esprit pour dire je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Dieu t'a oint du Saint-Esprit afin de t'envoyer dans le monde, en commençant par ta maison, pour annoncer le glorieux message de l'Évangile qui seul libère. En dehors de l'Évangile, il n'y a pas de salut pour les hommes. L'apôtre Paul s'écrie avec conviction aussi, il n'y a de salut en aucun autre, car il a été donné sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés que le nom de Jésus. Alléluia! Voilà la conviction des premiers chrétiens, de Pierre, de Paul, de Jacques et de Jean. Ils sont morts même pour ces convictions-là. Mes amis, quelle est votre motivation? Vous savez ce qu'on disait des premiers chrétiens? Tout le monde travaillait, je lisais aussi cela. Il est dit ceci, l'expansion du christianisme dans les premiers siècles était phénoménale. Au milieu du deuxième siècle, quelqu'un a dit en parlant des chrétiens, nous sommes partout. Nous sommes dans les villes et dans vos villages. Nous sommes dans votre armée et dans la marine. Petit à petit, l'idée d'une séparation entre le laïc et le clergé a pris racine. Car, disait-on, un laïc n'est pas qualifié pour évangéliser. Et voilà où le mal a commencé. Car, disait-on, qu'un laïc, lui, ne pouvait pas évangéliser. C'était l'affaire de certains spécialistes. Et ils étaient tellement spécialistes qu'ils ont empêché les autres d'évangéliser. Et eux-mêmes ne font rien du tout. Et c'est comme cela que cette expansion a été stoppée. Mes amis, si nous voulons que l'évangélisation se fasse encore dans notre génération, il nous faut être tous engagés. Amen. Tous. Cette œuvre compassion est avant tout une œuvre missionnaire. C'est une œuvre missionnaire qui commence ici et qui va jusque dans le monde entier. Et si nous avons tous un cœur de missionnaire, Dieu nous utilisera. Alléluia. Une église qui n'est pas missionnaire est une église démissionnaire. Mais Dieu bénira, Dieu remplira du Saint-Esprit celui ou celle qui a cette vision-là. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. La motivation de l'apôtre était celle-ci. Et encore, il y avait une autre motivation. Qu'est-ce qu'il est dit? Car l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ. C'est cette deuxième pensée qui était là. L'homme est perdu, mais l'amour de Dieu était là, en Paul, qui voulait sauver ces hommes. Cet amour était répandu dans son cœur par le Saint-Esprit. Et cet amour voulait le conduire jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand un cœur est rempli d'amour pour les perdus, mes amis, personne ne peut arrêter cette personne. Amen. Personne. Lorsque le cœur est plein d'amour, personne ne peut vous arrêter. Mes amis, moi je vous dis une chose. Lorsque nous partons sur le champ missionnaire pour une campagne d'évangélisation, c'est là où nous sommes le plus heureux. Alléluia. Oh, combien j'aime mes amis africains. Combien on est heureux là-bas, alléluia. Et il y a une onction toute particulière lorsque nous sommes là, au-delà des frontières, annonçant le glorieux message de l'Évangile. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'amour de Christ nous presse, l'amour de Christ. Si l'amour de Dieu est dans notre cœur, mes amis, nous irons plus loin. Amen. Nous irons plus loin. Gloire au Seigneur. Une autre motivation encore, l'amour de Dieu. La perdition de l'homme, l'amour de Dieu, mais aussi le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et avant, il est dit, connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Nous vous en supplions. L'apôtre Paul était aussi conscient du jugement de Dieu. Car mes amis, qu'on le veuille ou pas, nous allons devant d'un jugement. Amen. Dieu va juger les hommes. Le jugement arrive, mes amis. Le réveil sera là. Mais avec le réveil, il y aura aussi un jugement. Le jugement vient. Et l'apôtre était conscient de cela. Combien d'entre nous ne sommes pas conscients de cela? Nous sommes là, on dort un petit peu, on ne réalise absolument rien. Voilà pourquoi l'apôtre Paul avait un feu en lui. Et s'écriait, nous vous en supplions. Pourquoi est-ce qu'il disait cela? S'il n'y avait pas de jugement, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? C'est ce que la parole de Dieu dit.
Le jugement vient, mes amis. Le jugement vient sur ce monde. Et voilà pourquoi c'est une motivation supplémentaire pour aller et annoncer l'évangile. Mon ami, es-tu en règle avec Dieu? Es-tu en règle avec Dieu? Car le jugement vient. Le jugement vient. Le jugement vient sur toi. Es-tu en règle avec Dieu? Si tu n'es pas en règle, mets-toi en règle aujourd'hui. Amen. Gloire au Seigneur. Une quatrième motivation. Pourquoi nous devons aller? Parce que c'est un commandement du Seigneur. Dieu a dit, allez par tout le monde. C'est un commandement de Dieu. Et cela devrait nous suffire. Amen. Et quand je parle du monde, je parle de la mission à partir de la maison jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas d'espace. C'est partout. Amen. Les uns iront jusqu'aux extrémités de la terre. Les autres resteront chez eux. Mais il faut aller. Il faut aller. C'est un commandement de Dieu. C'est un commandement de Dieu. Les églises qui n'évangélisent pas, les œuvres qui n'évangélisent pas, meurent. À quoi sert une église qui ne vit que pour elle-même? À quoi sert une œuvre qui ne vit que pour elle-même? Mes amis, si nous sommes ici uniquement pour être bénis nous-mêmes, tôt ou tard, la bénédiction de Dieu s'en ira. Nous sommes ici comme la lumière du monde et le sel de la terre. Notre but doit être de sauver des âmes et d'amener des hommes et des femmes à la réconciliation. Amen. Si au milieu de nous, des hommes et des femmes ne sont pas réconciliés avec Dieu, alors malheur à nous, nous ne servons à rien du tout. Le sel a perdu sa saveur. Et si le sel a perdu sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il ne sert à rien. Et il est prêt à être foulé, à être jeté dehors, foulé aux pieds. Mes amis, voilà le feu de l'apôtre. Vous comprenez pourquoi l'apôtre avait un ministère de puissance? Parce qu'il avait cet esprit missionnaire. Mais vous pouvez l'avoir. Cet esprit de puissance, si vous avez cet esprit missionnaire. Dieu vous rencontrera, Dieu bénira toujours celui ou celle qui est dans cet esprit-là. Amen. Dieu vous bénira. Alléluia. Gloire au Seigneur. La motivation. La motivation. Le deuxième M maintenant. Le message. Le message. Il nous faut avoir le bon message. Et quel est le message que nous devons annoncer? C'est le message que Jésus a donné à Nicodème. Ne t'étonne pas, Nicodème. Ce chef religieux, cet homme qui enseignait la religion aux autres et qui n'était pas sauvé. Et il lui dit, ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, Nicodème, toi le docteur de la loi. Il faut naître de nouveau. Amen. Il faut. C'est une nécessité. Et Jésus lui dit encore, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Mes amis, voilà le message. Ce message n'est pas « Oh, aimez-vous les uns les autres, soyez gentils ». Dieu a parlé de cela, mais ce n'est pas cela qui nous sauve. L'amour est une conséquence du salut reçu en nous. Amen. Une fois que nous avons reçu ce salut, naturellement, nous devons nous aimer. Mais ce n'est pas en nous aimant les uns les autres que nous serons sauvés. Ce n'est pas en faisant du bien à gauche, à droite que nous serons sauvés, mes amis. Il faut que vous naissiez de nouveau. On disait un jour à John Wesley, ce fameux prédicateur méthodiste, on lui disait, mais Wesley, pourquoi est-ce que tu dis toujours aux gens qu'ils doivent naître de nouveau? Et lui, il répondait, parce qu'il faut qu'ils naissent de nouveau. Mais pourquoi doivent-ils naître de nouveau? Parce qu'il faut qu'ils naissent de nouveau. Mais pourquoi doivent-ils naître de nouveau? Parce qu'il faut qu'ils naissent de nouveau. Alléluia! Mes amis, c'est un impératif. Es-tu né de nouveau? L'homme qui n'est pas né de nouveau n'entrera pas au ciel. L'homme qui n'a pas abandonné ses péchés, qui n'a pas réalisé sa perdition devant Dieu, et qui n'accepte pas Christ dans sa vie comme son sauveur et comme son maître, ne sera perdu éternellement. Mes amis, c'est la parole de Dieu. C'est cela l'évangile. C'est l'évangile qui sauve. C'est l'évangile qui délivre. C'est l'évangile qui transforme. Alléluia. Es-tu né de nouveau? Mais vous dites, je ne comprends pas ce que tu dis. Qu'est-ce que tu dis? Nicodème, qu'est-ce qu'il dit? Mais comment? Moi, qui suis vieux, comment est-ce que je peux encore rentrer dans le sein de ma mère? Il comprenait rien. Et pourtant, c'est un docteur de la loi. Il enseignait les autres, il ne comprenait rien du tout. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, religieux, qui enseignent même les autres et qui ne savent pas ce que ça veut dire. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par « naître de nouveau » Mais je vais à l'église, je prie, voyez. Je vais à l'église, je prie, je donne de l'argent de temps en temps. Pas trop, parce qu'il ne faut pas aussi exagérer. De temps en temps. Mais ça va, tout va bien. Qu'est-ce que vous entendez par là? Je suis né de nouveau. Est-ce que ce n'est pas aller à l'église? C'est vrai que j'y vais pas tout le temps, mais enfin une fois à Noël, des fois à Noël j'y vais. Mais enfin s'il y a de la neige sur la route, j'y vais plus, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que c'est pas prier, aller à l'église? Non mes amis, Nicodème faisait tout cela, n'est-ce pas vrai? Nicodème faisait cela, et encore mieux que vous. encore mieux que vous et que moi. Et cependant, Jésus lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Quel choc pour cet homme, n'est-ce pas vrai? N'ayons pas peur de choquer les gens, mes amis. N'ayons pas peur de les choquer, parce que les électrochocs du Saint-Esprit, ce sont des électrochocs qui libèrent. Amen. Alléluia. Oh, j'aime les électrochocs du Saint-Esprit. Et Jésus n'a pas eu peur de le choquer, car c'est ainsi qu'il l'a réveillé dans sa conscience. Il y a un message. Et l'apôtre, qu'est-ce qu'il disait lui-même encore? 1 Corinthiens 15, vous connaissez cela. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, sinon, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné, voilà, il explique maintenant ce qu'est l'évangile. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité des morts, selon le troisième jour, selon les Écritures. Voilà l'évangile, mes amis. Voilà l'évangile. Si quelqu'un ne prêche pas cela, il ne prêche pas l'évangile et ce n'est pas un évangéliste. Christ est mort pour nos péchés. Cela veut dire que s'il est mort pour nos péchés, cela veut dire que nous sommes morts dans nos péchés. À cause de nos péchés, nous sommes séparés de Dieu. Et voilà la bonne nouvelle. Christ est mort à ta place. Le divin substitut. L'innocent est mort pour un coupable. Le pur est mort pour les impurs. Le juste est mort pour les injustes. Christ aussi a souffert pour nos péchés, nous dit la Bible, afin de nous amener à Dieu. Christ a souffert une fois, une fois, une fois. Mes amis, bien souvent, vous nous faire croire que Jésus souffre tous les dimanches dans l'église. Tous les dimanches, mes amis, ça, ce n'est pas du tout dans la Bible. Christ a souffert une fois, nous dit la Bible, il y a 2000 ans. Amen. Il n'y a pas à souffrir encore tous les dimanches pour nous sauver. Il l'a fait une fois pour toutes. Alléluia. Et ensuite, il s'est levé, il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, son œuvre étant parfaitement accomplie. Alléluia. Amen. Mes amis, le message, nous ne l'oublions pas. Il faut annoncer ce message. C'est le message le plus important. Amener des âmes à la conversion, au salut, à la nouvelle naissance. Que le nom du Seigneur soit béni. Car le plus grand miracle sur cette terre n'est pas la guérison d'un corps. Le plus grand miracle, c'est la guérison de l'âme, le salut de l'âme. Vous êtes d'accord? Ça, c'est le plus grand des miracles. Vous pouvez aller au ciel avec un corps. Vous pouvez aller au ciel avec un corps malade. Mais vous ne pourrez jamais aller au ciel avec une âme malade qui n'est pas purifiée par le sang de Jésus. Mon ami, le plus important, c'est le salut de ton âme. Es-tu né de nouveau? As-tu l'assurance d'être un enfant de Dieu? As-tu cette assurance? Le Saint-Esprit en nous donne cette assurance. Amen. L'Esprit de Dieu qui est en nous rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, nous dit l'apôtre. Et Jean nous dit, petits enfants, je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Oh, gloire au Seigneur! Nous avons un glorieux message. C'est le plus grand des messages. Amen. Mais celui qui annonce ce message doit être fidèle. Bien souvent, notre message n'est pas accepté à cause de notre infidélité. Nous devons vivre notre message. Vous êtes d'accord? Nous devons vivre. Car si nous ne vivons pas notre message, alors les gens nous entendront, mais ils ne comprendront pas. C'est pourquoi ce message doit être incarné dans le messager. Et c'est ainsi qu'il portera du fruit. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Gloire. M maintenant, de l'esprit missionnaire de l'apôtre. Ce sont les miracles qui confirment la parole. L'apôtre disait, les preuves de mon apostolat ont éclaté parmi vous par une patience à toute épreuve et par des signes, des prodiges et des miracles. Jésus a dit à ses disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Et ils allèrent partout, il nous est dit. Et le Seigneur travaillait avec eux, confirmant la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Oh, gloire au Seigneur. Voilà, le miracle est important. Nous ne devons pas suivre les miracles, mais les miracles doivent suivre la parole. Alléluia. Il y en a qui suivent des miracles. Que les miracles, par eux-mêmes, pour eux-mêmes. Ça, c'est très dangereux. Ce ne sont pas les miracles que nous devons suivre, c'est le Seigneur. Si nous suivons le Seigneur et que nous prêchons sa parole, les miracles nous suivront. Alléluia! Mais vous ne devez pas suivre les miracles. Combien ne suivent que des miracles? Ah tiens, oh là, là-bas il y a des miracles. On va encore après le miracle. Oh, là-bas il y a un miracle. Et puis on ne se demande même pas si ces miracles viennent de Dieu ou pas. Parce que, écoutez-moi bien, tous les miracles ne viennent pas de Dieu. Il y en a beaucoup qui pensent qu'un miracle, ça vient forcément de Dieu. Mes amis, tout le surnaturel ne vient pas forcément de Dieu. Vous devez bien le savoir, il y a le surnaturel divin et il y a le surnaturel diabolique. Et celui qui court après les miracles, pour le miracle, il accepte n'importe quoi. Et il vous dit, ah, mais c'était formidable, c'est une manifestation extraordinaire. Et on ne contrôle rien du tout. On ne contrôle rien du tout. Et comment savoir faire la différence entre le surnaturel divin et le surnaturel diabolique? Il n'y a que la parole de Dieu qui nous le donne. Amen. Si ce miracle et ce surnaturel est en conformité avec la parole de Dieu, cela vient de Dieu. Mais si ce miracle vient contredire l'enseignement de la parole de Dieu, ce miracle ne vient pas de Dieu. C'est le test. Et il y en a beaucoup aujourd'hui qui ne font pas ce test. Ils ne connaissent même pas leur Bible d'abord. Ils ne connaissent même pas leur Bible. Vous savez, quelqu'un qui ne connaît pas sa Bible est dans une position dangereuse. Si tu suis les miracles sans connaître ta Bible, mon ami, un jour tu vas accepter les miracles du diable. Tu seras étonné d'avoir des difficultés après. Et alors, tu diras, mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Voilà la réponse! C'est parce que tu ne t'es pas d'abord attaché à la parole de Dieu. La parole de Dieu est importante. Amen. Pour faire la différence entre ce qui vient de Dieu et du diable. Ceci est important. Ce sera ton salut, mon ami. Ce sera ton salut. Les apôtres allaient, ils prêchaient la parole. Et le Seigneur confirmait sa parole par les miracles qui l'accompagnent. Oh, gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Alléluia! Que le nom du Seigneur soit béni. Les miracles, ceci est important. Car sans les miracles, nous n'avons que des discours, des paroles. Mais lorsque la puissance miraculeuse est là, alors il se passe de grandes choses. Amen. Gloire au Seigneur. Ce soir, nous allons passer le film sur notre croisade à Kinshasa, au Zaïre. Et vraiment, le Seigneur a fait de grandes choses. Nous vous en parlerons ce soir. Mais lorsque la prédication est confirmée par des miracles, mes amis, alors la foule est là pour accepter l'Évangile. N'est-ce pas vrai? Et des multitudes peuvent être sauvées comme cela. Que le nom du Seigneur soit béni. Les miracles, c'est un peu partout. Partout où l'Évangile progresse actuellement, c'est là où il y a les miracles qui confirment cette parole. Les miracles. Un peu de partout, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Et j'ai noté ici certaines petites choses que je vais vous donner quand même. Je les ai notées et c'est un peu pour vous que je les ai notées. L'Esprit de Dieu agit un peu de partout. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans le monde entier. En Afrique, on estime qu'avant l'an 2000, il y aura plus de 300 millions de chrétiens. Alléluia! Gloire à Dieu! Dans les 15 dernières années, plus de 100 000 musulmans en Indonésie sont devenus chrétiens. Ceci ne s'est jamais vu dans l'histoire de l'islam. Alléluia! Encore un autre signe. Et il n'y a que par les miracles que cela, que vous pouvez amener un musulman, mes amis, à la conversion. Vous pouvez essayer tout le reste. Vous n'y arriverez jamais. Et en Inde aussi, qu'est-ce qui se passe? Dans l'état de l'Inde du Nord, plus de la moitié de la population sont chrétiennes. Dans un de ces états, 80% de la population est chrétienne. Ils envoient des missionnaires dans d'autres états de l'Inde et bientôt dans d'autres pays de l'Asie. Gloire au Seigneur. Au Brésil, une dénomination chrétienne qui comptait en 1968 1 500 000 membres en compte 3 millions en 1980. Elle a doublé en 12 ans. Alléluia! Et tout cela parce qu'il y a les miracles. Les miracles. Le miracle est important. Sans les miracles, qu'aurait fait l'apôtre Paul? Rien du tout. Sans les miracles, qu'aurait fait Jésus? Pas grand-chose. En Argentine, écoutez-moi bien là. En Argentine, l'Église grandit. Un mouvement commencé en 1980 a maintenant 120 000 membres. Le responsable a comme but d'avoir 250 000 membres en une année. Et ce responsable, ce serviteur de Dieu, avant de commencer une campagne d'évangélisation, brise le pouvoir de Satan sur une certaine région du pays. Il le fait en jeûnant et en priant dans une chambre d'hôtel pendant 5 jours. Puis il se rend à sa réunion. Avant même qu'il commence de prêcher, les gens sont sauvés, guéris. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Je lisais le témoignage aussi d'un autre prédicateur, qui avait une campagne comme cela, et des miracles se faisaient. Mais le gouvernement n'était pas content. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Maintenant, tu arrêtes. Ça fait un peu trop de bruit avec tes miracles et tout ça. Alors on va t'arrêter, on va te mettre en prison. Et comme ça, les miracles et la campagne sera terminée. Alors, ils l'ont mis en prison. Mais avant de partir, il a dit aux chrétiens, demain vous rassemblez sur le stade, je ne serai pas là, mais ça ne fait rien. Mais là, alors, pendant que je serai en prison, à telle heure, à 9h du soir, je vais prier. Comme j'ai prié dans le stade, je vais prier là-bas pour vous. Et Dieu ouvrira les yeux des aveugles et guérira les malades. Alléluia! Et cet homme était en prison, la foule était là. À 9h, il se met à prier. Seigneur, il n'y a pas de distance pour toi. Et tends ta main sur les malades. Et qu'au nom de Jésus, les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent. Au moment où il priait, la puissance de Dieu tombait sur l'auditoire. Et les miracles se passaient. Oh, alléluia, quel Dieu merveilleux. Amen. Nous ne pouvons pas emprisonner la puissance de Dieu. On peut mettre en prison un serviteur de Dieu, mais on ne peut pas mettre en prison l'Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. D'ailleurs, l'Esprit de Dieu agit plus puissamment dans les pays où il y a la violence, la révolution et l'oppression et la domination. C'est dans ces pays-là que l'Esprit de Dieu agit le plus. Tandis que dans nos pays de l'abondance, de la prospérité, l'Esprit de Dieu est limité. Il est limité. Ne l'oubliez pas, mes chers amis. L'Esprit de Dieu, là où il se passe de plus grandes choses, ce sont là où il y a de grandes souffrances, la violence, la rébellion, la révolution. Là, il crie vers Dieu et Dieu fait des choses extraordinaires. Amen. J'en reviens à cet Argentin, serviteur de Dieu. C'est pas fini. Dans une de ces réunions, une femme est venue avec un enfant de 4 ans dans ses bras. L'enfant avait un foulard autour de la tête. Pourquoi? Parce qu'il était né sans oreille. Il était né sans oreille. Le serviteur sentit la puissance et la présence de Dieu et pria pour ce petit garçon. Puis il dit à la maman, enlève le foulard. Et lorsqu'elle ôta le foulard, elle remarqua qu'une petite partie de chair se voyait ici à l'emplacement des oreilles. Et d'un seul coup, il y a eu comme une explosion. Pouf ! Deux oreilles sont apparues et l'enfant était merveilleusement miraculé. Alléluia ! Oh, combien notre Dieu est grand ! Amen ! Qui est semblable à notre Dieu? Qui est semblable à notre Dieu? Que son nom soit béni. Alléluia. Au Guatemala, il y avait seulement 1000 croyants 50 ans en arrière. Aujourd'hui, ils sont 1 500 000. Pourquoi? Parce que les miracles confirment la parole. Et là où il y a les miracles, l'Église avance, victorieuse, invincible. Alléluia. Gloire à Dieu. En Chine. En 1950, il y avait environ 1 million de chrétiens. Puis vint le communisme. Tous les missionnaires furent chassés. Tous les pasteurs furent mis en prison. Les églises furent fermées. Les Bibles brûlées. L'Évangile interdit. Ceux des pays étrangers se demandaient si le christianisme était vraiment balayé de ce pays. Non. Les communistes pouvaient mettre les chrétiens en prison. Mais ils ne pouvaient pas mettre le Saint-Esprit en prison. Nous savons qu'ils sont maintenant 50 millions de chrétiens. Alléluia! Amen. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. Vous ne croyez pas à les miracles? Les miracles sont importants, mes amis. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et toutes sortes de miracles, pas seulement des miracles physiques, mais aussi des miracles naturels, dans la nourriture et tout ça. Je lisais en Chine, dans un groupe qui avait reçu une famille qui avait reçu des chrétiens venus de l'étranger. Et La bonne dame qui était là à la maison, elle se disait, mais comment je vais nourrir ces chrétiens qui venaient de la Chine, mais d'une autre région, et elle ne savait pas comment il fallait faire. Plusieurs étaient là. Elle est allée à la cuisine, et puis tout à coup, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit dans plusieurs pots, elle voit de la nourriture. Alors elle est allée voir les autres chrétiens, elle a pensé que c'était ces chrétiens qui avaient amené cette nourriture. Elle est allée leur dire, oh merci, vous êtes venus et puis vous avez amené de la nourriture, merci, merci beaucoup. Comment? Quelle nourriture? Et les chrétiens ont dit, mais on ne t'a pas amené de nourriture. Mais comment? Il y a de la nourriture à la cuisine. On ne t'a pas amené parce qu'on a tout mangé en route déjà. On a fait un long voyage et on n'a rien amené. Mais comment? Eh bien, il y avait de la nourriture. Dieu avait multiplié cette nourriture. Alléluia! Amen! Gloire au Seigneur. Et il y a tant de choses. Tant de choses, tant de choses. Un païen aussi. Un chef du gouvernement en Chine. Un jour, il était là, devant la maison d'un vieux cordonnier qui s'était tout juste converti quelques jours avant. Un chrétien était venu voir ce cordonnier avec son épouse. Et là, après une conversation, ce cordonnier, vieux cordonnier, s'est donné au Seigneur. Mais quelques temps après, il est tombé malade, ce cordonnier. Et ça n'allait pas du tout. Il était sur le point de mourir. Et quand il... Et cet homme-là, c'était un homme du gouvernement, et il avait beaucoup de compassion pour ce pauvre cordonnier. Alors qu'il était là devant leur maison, qu'il regardait, tout à coup, qu'est-ce qu'il voit? Il voit deux hommes en blanc qui rentrent dans cette maison. Et pendant qu'il voyait cela, il entendait les cris de la femme qui pleurait, qui criait. Et ces deux hommes sont rentrés, et quelques instants après, ces deux hommes en blanc sont sortis avec le cordonnier. Ils tenaient le cordonnier par les mains comme cela, et quand ils sont sortis, ils ont disparu dans les airs. Quand il a vu ça, il est rentré dans la maison en disant, « Maman, qu'est-ce que c'est que ça? Qui sont ces deux hommes en blanc? Qui sont ces deux hommes ?»« Il n'y a pas d'hommes en blanc. »« Mais pourquoi ? Je n'ai pas vu, il n'y a rien. Mais qui sont ces deux hommes en blanc ?» Elle pleurait parce que juste à ce moment-là, son mari venait de mourir. Son mari venait de mourir. Et cet homme explique, mais il dit, « Écoute-moi, maman, deux hommes sont venus en blanc emmener ton mari et ils ont disparu dans les airs. » Quand elle a entendu ça, elle a tout de suite séché ses larmes. Alléluia. Elle a été instantanément consolée. Alléluia. Elle a dit, « Mon mari est auprès du Seigneur. Deux anges sont venus le chercher. » Gloire à Dieu. Et cet homme, quand il a entendu ça, il a dit, « Mais prêchez-moi l'évangile. Prêchez-moi l'évangile. Je veux me convertir aussi. » Et cet homme, sur le champ, s'est converti et il est devenu un chrétien. Et c'est ainsi qu'en Chine, mes amis, il y a beaucoup de groupes de prière. Et tous ces groupes, d'une manière générale, sont nés par le moyen des miracles qui ont lieu dans les familles. Les gens, expérimentant ces miracles, par reconnaissance à Dieu, ils forment des groupes de prière. Et ils disent, « Seigneur, maintenant, que notre famille, que notre foyer soit ouvert pour toi, pour que des âmes se convertissent. » Et c'est ainsi que le réveil se poursuit en Chine par la main puissante de Dieu. Alléluia! Amen! Les miracles, ceci est important. Et ils confirment la parole par les miracles. Gloire au Seigneur. Le quatrième M. Un monde à sauver. Le monde. Le monde. Le monde. Celui qui a l'esprit missionnaire doit avoir le monde entier dans son cœur. Malheureusement, trop de chrétiens ont l'esprit, ont une vision très limitée. Ils ne pensent qu'à leur petite église, leur petit groupe. En dehors de ça, on a l'impression que le monde n'existe pas. D'autres, ils ont une vision un tout petit peu plus grande. Ce n'est pas seulement la vision de leur petite église, mais c'est la vision de leur ville. Mais ça ne va pas plus loin. On a l'impression qu'il n'y a plus d'autres villes dans le monde. On a l'impression que rien d'autre existe en dehors de leur ville. D'autres, ils voient leur pays. Mais on a l'impression que les autres pays dans le monde n'existent pas. Et Dieu n'est pas satisfait. Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes amis, le monde. Le monde. Allez partout le monde. Voilà pourquoi Paul a été puissamment utilisé. Mes amis, avez-vous la vision du monde? Cela ne veut pas dire que vous devez aller partout dans le monde, vous-même. Mais vous pouvez prier, vous pouvez donner, vous pouvez faire quelque chose pour qu'un autre parte à votre place. Vous pouvez aider quelqu'un qui y va. Vous pouvez faire un travail d'une manière ou d'une autre. Mes amis, le monde, le monde. Ne vis pas sur toi-même. Un chrétien qui ne vit que pour lui-même, tôt ou tard, perdra toutes les bénédictions qu'il a. Et je lisais ce témoignage aussi. Les statistiques disent en général que un chrétien garde 4 sur 1 franc, un chrétien garde 96 centimes pour lui-même et il donne 4 centimes seulement pour la mission. Voilà. Voilà l'esprit missionnaire. 96 centimes pour soi et seulement 4 centimes pour la mission. Mes amis, si nous voulons que Dieu agisse puissamment dans nos vies et par nos vies, il nous faut absolument cette vision missionnaire. Amen. Mes amis, ceci est important. Dieu voit le monde entier. Est-ce que tu vois le monde entier? Si le monde ne nous intéresse pas, alors c'est que nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. C'est que l'amour de Dieu n'est pas encore en nous. Mes amis, Dieu veut que par nous, il veut que nous soyons une bénédiction dans le monde. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Et qui sait, un jour, Dieu pourra t'envoyer dans le monde. On ne le sait pas. Sois prêt. Et si Dieu t'a... Dieu n'est pas encore en nous. Mes amis, Dieu veut que par nous, il veut que nous soyons une bénédiction dans le monde. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Et qui sait, un jour, Dieu pourra t'envoyer dans le monde. On ne le sait pas. Sois prêt. Et si Dieu t'adresse un appel, obéis. Obéis à l'appel du Maître. Va. Tu ne le regretteras jamais. Que le nom du Seigneur soit loué. Le monde. Le monde. Gardons cette vision du monde, mes amis. Le monde se meurt sans Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà pourquoi l'apôtre était puissamment utilisé, n'est-ce pas vrai? Un esprit missionnaire. Que Dieu nous le communique. Que Dieu nous le communique, mes amis. Et nous ne serons plus les mêmes personnes. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Prions quelques instants maintenant. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, nous sommes devant toi maintenant. Nous avons entendu ta parole et tu veux nous communiquer à tous cet esprit missionnaire. Car toi, tu as aimé le monde, Seigneur. Paul a aimé le monde. Les premiers chrétiens, tu les as envoyés dans le monde. Et tu veux nous envoyer aussi. Seigneur, pardonne-nous car nous avons trop souvent pensé à nous-mêmes, à notre église, à notre ville, à notre pays. Mais nous avons négligé ceux qui sont au-delà des frontières. Et tu nous dis cet après-midi, veux-tu aller au-delà de tes frontières? Veux-tu penser aux autres? Veux-tu prier pour les autres? À ceux qui sont au loin? Le Seigneur nous demande à tous de nous reconsacrer à lui et de dire, Seigneur, je veux avoir cet esprit missionnaire. Je ne veux plus vivre pour moi-même. Mais je veux que tu m'utilises partout, à Jérusalem déjà, là où je suis, mais en Judée, ou en Samarie, ou jusqu'aux extrémités de la terre, comme tu veux, où tu veux, quand tu veux, Seigneur, je veux être disponible. Celui qui est disponible, Dieu l'utilisera puissamment. Amen. Gloire au Seigneur. Je crois qu'après ce message, Dieu demande une réponse. Dieu a parlé à ton cœur. Il y a une consécration que nous devons faire. C'est une consécration que l'on devra renouveler, bien sûr. Mais si Dieu a parlé à ton cœur et que tu lui dis, Seigneur, pardonne-moi parce que cet esprit missionnaire, je ne l'ai pas. Je ne pense qu'à moi, qu'autour de moi, qu'à mes biens, qu'à mes amis, qu'à mon église, qu'à mon pays, mais j'ai négligé les autres. Je te demande pardon. Je veux maintenant penser aux autres. Tu as tant aimé le monde. Seigneur, je veux me donner aussi à ce monde. Je veux faire quelque chose. Ce soir, je veux me consacrer et avoir cette vision mondiale. S'il y en a qui veulent que le Seigneur les utilise et qui veulent avoir cet esprit missionnaire, je vais vous demander de vous lever là où vous êtes, mes amis. Devant Dieu, levez-vous et dites, Seigneur, je veux vraiment que le monde soit dans mon cœur. Je ne veux cesser d'être égoïste et ne penser qu'à moi. Combien? Cette consécration est importante, mes amis, Dieu le voit, Dieu le voit, Dieu le voit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul était puissant, il était disponible. Dieu ne demande pas la perfection, Dieu demande votre disponibilité. Soyez prêts à faire ce qu'il vous demande, là où il voudra, comme il voudra. Ce qu'il vous demande, c'est la disponibilité. Soyez disponible. Ouvrez votre cœur et que le monde entier puisse y entrer. L'amour de Christ nous presse. Seigneur Jésus, nous te louons pour ton amour envers nous. Nous te louons, Seigneur, parce que si nous sommes sauvés ici, en France, en Suisse ou dans d'autres pays, c'est bien souvent les étrangers que tu as envoyés vers nous. Et c'est par leur obéissance que nous avons été sauvés. Seigneur, en retour, tu veux aussi nous envoyer auprès d'autres étrangers. Et par notre obéissance, nous pourrons amener le salut à une multitude d'âmes qui se perdent dans les ténèbres. Seigneur Jésus, comme tu as envoyé les autres vers nous, tu attends que nous allions vers les autres. Seigneur Jésus, trouve en nous ce cœur compatissant. Donne-nous d'entendre les cris de ceux qui se perdent dans les ténèbres. Seigneur, nous ne voulons pas faire de sentiments, mais nous voulons entendre le cri de ceux qui se perdent, l'appel du Macédonien. Viens et secours-nous. Seigneur, tu veux utiliser chacun d'entre nous par la prière, par nos dons. Prends nos vies, Seigneur. Et utilise-nous pour ta gloire. Au nom de Jésus, merci, tu as exaucé notre prière. Et tu utilises celui qui est disponible. Ô merveilleux Jésus, nous t'aimons, nous t'adorons et nous te glorifions. Amen.